Marie. Je veux bien une grande maison avec un balcon.
Au Costa Rica. Au Costa Rica. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Mais c'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Mais qui est un très bon musicien. Je t'invite à écouter Dig Dig Diggers, en tout cas, l'émission des spéciales de la Ferrarock que tu peux retrouver en podcast sur le www.radiointeractif.com ou sur le ferrarock.org pour avoir cette interview. Il te le dit avec son bel accent en plus. Ah, oh, j'étais à Paris. Je suis au Costa Rica maintenant.
Des gens t'as craqué, toi.
Ah, je l'envie un petit peu, le jeune homme, parce qu'il paraît que c'est magnifique. C'est ce qui fait la particularité du Costa Rica, Marie.
Non, dis-moi.
Et bah, c'est que c'est un pays qui n'a pas d'armée. Ils ont aboli l'armée.
Ah, des gens bien.
Des gens bien, voilà. Mais on va pas parler d'armée ce soir, hein, surtout pas. On va plutôt parler de rock, de look. C'est la partie numéro 2 de look, enfin de pas de look, de mode plutôt, c'est plus juste. La partie numéro 2 de ce deuxième épisode de ce que nous avions commencé à entamer la semaine dernière. Donc on va parler forcément de Philippe Découfflet et aussi de... Ouais, t'avais envie d'élargir un petit peu au look du rock'n'roll ce soir, donc on va évoquer tout ça. Philippe Découfflet qui est à nouveau invité cette année, hein, faut pas l'oublier, et qui est invité avec en famille en plus, je crois.
Mais oui, ce sera la 7e fois, je crois bien, qu'il va venir au Festival à Rock. Bah oui, c'est une fidélité, c'est pas une fidélité de fait, hein. Tous les spectacles qu'on a programmés, Jean-Michel et moi, on les avait vus, bien évidemment, auparavant, c'est pas un principe. Il y a des spectacles qu'on aurait aimé avoir, mais dont la régie ou alors l'aspect financier faisait que c'était pas abordable. Je pense à Sombrero, à Shazam. Spectacle absolument superbe qu'il a pu faire, qu'on est allé voir, Jean-Michel et moi, par plaisir personnel. Donc c'est quelqu'un qu'on suit, oui, depuis très longtemps, depuis 1986.
Et qu'on va retrouver cette année,
voilà.
C'est ce qu'on disait, et qui, avec en plus, pour l'avoir vu, hein, je le disais il y a 15 jours, quelques extraits, quelques teasers, heureux homme que je suis, c'est, oui, là encore, en termes de fringues, de loufa de fringues, c'est pas le bon terme, de costume, de scène, si exactement.
On peut y aller sur fringues, parce que Philippe est quelqu'un qui a la brillante carrière qu'on le connaît, mais c'est pas quelqu'un qui se prend tant que ça au sérieux. Enfin, déjà, le nom de sa compagnie, je rappelle, c'est la compagnie DCA, qui veut dire diversité, camaraderie, agilité. Ça donne la petite pointe d'humour qu'il sait avoir. Mais d'ailleurs, à l'origine, il voulait être clown, lui, Philippe Découfflet.
Ah, tu me l'apprends.
Il a commencé par faire des stages de clown. Enfin, après, il est parti sur le mime. Enfin, son rêve aurait été de devenir clown. Mais pour ceux qui connaissent les spectacles de Philippe Découfflet, vous voyez de quoi je parle. Enfin, c'est quelqu'un qui est bourré d'humour, bien évidemment.
Ouais. Et ce qui n'est pas si courant, finalement, dans ce monde de la chorégraphie et du spectacle en général, il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui savent transmettre leur humour. Il y a beaucoup de gens sérieux. Tiens, là encore. Là, voilà, tu vas comprendre ce que je veux dire en disant ça, c'est qu'on a beaucoup aimé Coluche quand il a joué Ciao Pantin, hein, sauf qu'on avait oublié l'immense humoriste. Et c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de faire rire que de faire pleurer, quand même. Donc, voilà.
Ah, bah ça, l'humour, il n'y a rien de plus difficile à partager. Le drame, ça se partage.
Bien sûr.
Mais l'humour, il n'y a rien de plus difficile, oui. Mais bon, ne faisons pas un résumé de Philippe Découfflet au seul volet de l'humour.
Non, ça veut plus.
Même
que
si
ça.
Le premier spectacle qu'on a vu, Jean-Michel et moi, de Philippe Découfflet, ça s'appelait Codex. Je crois me souvenir qu'on était allé à la Maison de la Culture de Créteil pour découvrir ça, donc 1984-85, dans ces eaux-là. C'est le premier spectacle qu'il a fait connaître, d'ailleurs, du grand public. Il avait fait quelques essais avant. Et l'humour était au centre de ce spectacle. Je veux dire, réussir à faire danser donc des danseurs en palme, et vêtus de combinaisons un peu latex noir, sur une musique complètement burlesque. Voilà, c'est plutôt. Voilà, je parle
burlesque,
s'agissant de Philippe Découfflet plutôt que d'humour. Et avec déjà une complicité avec son costumier qui s'appelle Philippe Guillotel, qu'il n'a pas quitté, je veux dire, qui tout au long de ses créations l'a accompagné. Parce qu'il faut savoir quand même que Philippe Découfflet, donc c'est d'abord et avant tout le nom qui est mis en avant et qui est médiatisé, mais derrière lui, il y a quand même une sacrée équipe. Vous imaginez, quand il a fallu faire les JO d'Albertville et compagnie, on va en parler, il a une équipe de fidèles, d'ailleurs, pour la plupart. Et donc c'est son nom qui est mis en avant, mais Philippe Guillotel est un des éléments, enfin une des personnes essentielles dans l'art de Philippe Découfflet. Je veux dire, les costumes de Philippe Guillotel, c'est tout simplement magique et inimitable.
Ouais.
C'est vraiment sa patte à lui. J'ai, petite parenthèse, pour le grand public, il a reçu le César du meilleur costume pour le film Astérix, mais alors celui par Alain Chabat.
Oui, celui de Chabat.
Et c'est quelqu'un, oui, qui a d'abord été repéré par Philippe de Coufflet, et puis qui après, bon, ben voilà, fait des costumes pour des réalisateurs en cinéma, pour des clips musicaux, etc. Mais chaque fois que vous voyez un costume de Philippe Guillotel, vous le repérez, quoi, vous le connaissez.
Moi, je me rappelle, alors je sais pas si c'est lui qui l'avait fait, mais j'avais vu une proposition de signer des Coufflet comme ça, où c'était des. Ça faisait un peu comme un effet domino, tu sais. C'est-à-dire que les costumes, comme ça, ils se déroulaient, un peu comme des dominos, comme des rouleaux, un petit peu, mais un peu en matière plus bois, quoi, tu vois. Et c'était effectivement des choses, rien que ça, ça te fascinait, ça te restait. Et puis après, tu regardais la chorégraphie, mais l'entrée par le costume, elle était vraiment réelle, quoi. Ça commence par là, quoi.
Ah, bah, complètement. C'est vraiment au cœur des spectacles de Philippe de Coufflet, des spectacles et des parades qu'il a pu faire, je pense, donc, justement, au JO d'Albertville, dont il a assuré comment on appelle ça, la cérémonie d'ouverture.
Ouais. Qui reste une référence, hein, aujourd'hui, hein, malgré 30 ans ou 40 ans d'écart.
C'est ça qui est incroyable. En 1992, il y a des politiques, ben Jean-Claude Killy, qui était président de la région, si j'ai bonne mémoire, qui ont donné carte blanche à une bande de trentenaires.
C'est ça.
Des gars qui se prenaient pas du tout au sérieux, qui s'étaient promis de foutre le bazar là-dedans, enfin en se disant.
Dans un monde engoncé en plus, quand même. Les JO, c'est très codifié.
C'est la première fois, voilà. En France, en tous les cas. Enfin, en France, non, dans les JO, c'est la première fois que l'art rentre. Vient à la rencontre du sport.
Ouais.
Bien évidemment, ils avaient quand même pour consigne, ou du moins ils se sont auto-donnés pour consigne de j'allais dire d'embellir, non, mais de mettre en avant le corps du sportif, c'est évident, mais ils ont tout cassé les codes habituels qui ressemblaient plus à des parades, j'allais dire nationalistes, enfin, etc. Voilà.
J'approuve.
Ils ont tout cassé.
Bien sûr.
Mais
oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus militaire d'habitude, on va le dire comme ça, hein, pour le revenir à ça.
Et il y a quoi ? Il y a 2 milliards, 3 milliards de spectateurs qui ont vu ça à travers le monde, et tu as raison de le rappeler, Marcus, c'est une référence désormais. Mm-hmm. Il y a le avant et après.
Mm-hmm. Bon, je crois que depuis,
pour lui personnellement, enfin, ouais. C'est grâce à ces JO qui s'est fait connaître, mais aussi une référence dans les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques qui depuis se sont un peu plus décontractés.
Bah, de souvenir, je dirais que les deux qui sont pour moi une référence dans ce côté un peu détente, enfin, smile, etc., il y a ceux d'Albertville et ceux de Londres qui étaient d'ailleurs tout à fait un peu inspirés. Comme ça avec l'humour, mais bon, c'est les Anglais, alors c'est les Anglais. Mais c'est vrai qu'à part ces deux-là, oui, c'est beaucoup plus, comme tu dis, un peu nationaliste,
oui,
très
voilà.
Conventionnel. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm.
Tandis que lui, on a eu la chance, Jean-Michel Boinet, donc et moi, d'être invités à la générale.
D'accord.
De l'inauguration. Ah bah, on s'est précipité, bien évidemment. En gros, la générale était ouverte aux familles des participants, parce qu'il y avait 3000 participants, donc des professionnels, mais aussi des gens d'Albertville, des sportifs, des gymnastes. Enfin, etc. Et on s'est retrouvés donc dans ce magnifique lieu. Mais je me rappellerai toute ma vie, je n'avais jamais vu ça. Je veux dire, des skieurs avec des skis qui. Philippe arrivait à les faire danser.
Oui, parce qu'il y a quand même une performance. Voilà,
à un moment, des hockeyeurs qui étaient sur des immenses échasses. Et figurez-vous que, comme chapeau ou comme bonnet, Philippe Guillotel a cette ingéniosité d'inventer des bonnets en bourré d'hélium, ce qui fait qu'ils avaient tous une boule rouge comme ça au-dessus de la tête, et ils étaient montés sur des échasses, et on devinait qu'ils étaient hockeyeurs puisqu'ils avaient la canne du hockey. Mais des images comme ça qui me restent, mais on n'oublie pas, quoi. Il y avait d'autres sportifs, je ne sais plus ce qu'ils étaient, peut-être encore skieurs d'ailleurs, qui volaient comme ça au-dessus de nous, au-dessus du public, grâce à des systèmes de poulies, enfin, mais c'était magique, quoi, absolument sensationnel, quoi. Voilà. Des femmes en boule de neige.
Oui, ça, je m'en souviens.
Je n'ai toujours pas compris comment il arrivait à les faire évoluer, d'ailleurs. On avait l'impression qu'elles étaient montées sur des roulettes électriques, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Je ne sais même pas comment ils faisaient. Des femmes en boule de neige. Mais enfin, faut l'inventer, faut avoir l'idée et de se dire, allez, je vais jusqu'au bout.
Mais le génie, c'est justement de réussir à faire avec une forme de cahier des charges, parce que je suppose qu'il y en avait quand même un, et puis qui devait être plutôt serré, avec les contraintes de la glisse, comme tu le rappelais, Marie, de réussir à faire quelque chose qui reste. On a un immense souvenir de poésie, en tout cas pour ceux qui ont réussi à le voir. Je pense que ça se voit toujours sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir ça.
On voit sûrement des extraits, oui. C'est bien que tu utilises le terme poésie, je trouve.
Ah oui, c'est
parce que c'est vraiment,
ça.
Ouais, une fois encore, la rencontre de l'art et du sport, et c'est vraiment la réussite de Philippe de Coufflet et son équipe. Avant lui, il y avait eu Jean-Paul Goude en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. une parade à laquelle avait participé Philippe de Coufflet, qui avait chorégraphié une fameuse danse des sabots. J'espère que vous allez pouvoir trouver ça sur Internet. C'était mais superbe. Et donc déjà, Jean-Paul Goude avait cette approche. Donc c'est quelqu'un qui venait du monde de la pub et des clips musicaux. Et il a déjà un peu décontracté, on va dire, ce type de cérémonie, plus que décontracté d'ailleurs. Pareil, si vous trouvez des images de cette parade aux Champs-Élysées, mais c'est ça a pas vieilli d'un iota.
Je me souviens qu'il y avait les tambours du Bronx, qui d'ailleurs y avait entre participé. Autres, ouais. C'était assez marquant. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que c'était toute une époque. Alors c'est vrai que ça avait été taxé d'esthétisme, notamment par la droite et tout ça. Bon, voilà, bref. Mais
et alors, vive l'esthétisme.
Mais dans ces cas-là, oui, j'ai envie de dire vive l'esthétisme. Et surtout, c'est et puis surtout, ça reste toujours là, puisque comme on le disait tout à l'heure pour commencer cette chronique, le spectacle c'est stéréo. Hein. Il sera célébré pour les 40 ans d'Art Rock et c'est la compagnie des CA. Philippe de Coufflet, il y a un beau teaser que vous pouvez aller voir sur le site de Art Rock qui dit beaucoup, parce que si vous aimez les beaux costumes, si vous aimez le latex que tu évoquais tout à l'heure, et si vous aimez même les guitaristes torse nu comme Arthur Satan, ben voilà, tout ça est présent et tout ça on le verra à Art Rock en 2023, c'est pas mal.
Je reprends sur cette notion d'esthétisme, je suis en train de penser à la parade de Jean-Paul Goude, mais on peut aussi décrypter sur les spectacles de Philippe de Coufflet. Jean-Paul Goude avait quand même choisi de faire parader à peu près tous les pays du monde. Donc tu avais des Asiatiques, des Africains, des Indiens, enfin je veux dire, il y avait quand même un message de donner pour célébrer la Révolution française. C'est quand même, je veux dire, lui il est allé à l'international, c'est quand même un choix. Mmh. Philippe de Coufflet, il dit souvent dans ses spectacles, et c'est vrai, il raconte pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Ce sont juste des images un peu fantasmagoriques, des créations d'univers, où il laisse toute la place au spectateur. C'est-à-dire que lui, il fait des propositions.
Suggère.
Et ça t'envoie loin. Ça te permet de rêver. C'est plein de poésie, comme tu dis très justement. Et j'aime bien. Donc, c'est un peu un résumé de dire esthétisme. C'est un peu plus riche que ça.
Oui, c'est ça. Non, mais c'était. Fallait bien. Tu sais bien que j'aime bien reprendre la voix des méchants, des fois. En tout cas, c'est. C'est un grand monsieur qui va venir, comme tu le disais pour la 7e fois, qui va pas venir tout seul, il va venir en troupe. Et je parlais de famille, puisque c'est sa fille qui sera à la basse, en plus. Donc.
Ah oui, Louise. Voilà. Bah oui, que j'ai connue tout bébé.
Ouais, elle a grandi un peu de fille.
je pense qu'elle a. Ouais, c'est la fourchette 30-35. Ouais.
Tiens, je te propose une toute petite rapide pause musicale, mais ça va te faire plaisir parce que c'est des rockers. Alors, c'est un gars et une fille, ils nous viennent du Nord, donc, une belle région, le Nord. Ravage Club, ça s'appelle, et c'est très bien. L'album, c'est l'enfer. Et ça rend hommage parce que je sais que tu voulais un petit peu parler des looks en général dans le rock. On va un peu élargir ce soir. Ça rend, le titre s'appelle Iggy Pop, je peux pas te dire beaucoup mieux.
Waouh, belle référence.
Je ne veux pas être normal.
on entend ça, moi je dis que le futur est beau des fois. Ramage Club, Iggy Pop, ah c'est pas mal hein.
Ouais,
bah,
c'est bien,
ouais, ils ont 22 ans peut-être, ou quelque chose comme ça, ils nous viennent du Nord, et c'est un groupe à suivre absolument, je crois qu'ils sont d'ailleurs sur la finale régionale des Inouïs du Printemps de Bourges, je suis pas du tout surpris. On continue à évoquer Hard Rock, Iggy Pop il est venu à Hard Rock, tiens.
Ben non, figure-toi.
Ah.
Ben non, hélas.
Hélas.
Ben oui.
Parce qu'en termes de look, c'est pas mal. Enfin, tu me diras, lui, c'est souvent torse nu. Hein.
Oui, j'allais dire, c'est pas plus déshabillé que certains autres.
Mais ce qui est une forme de look, après tout.
Ah ouais, mais ce qui n'est pas pour gâcher notre plaisir. Hein.
Oui, je veux bien le croire. Oui, mais tiens, je te la pose. Oui, c'est vrai que Bayou aurait pu venir. Bon, il viendra peut-être. Il est encore là. Hein.
On a essayé. Oui, oui. 75 ans, je crois, maintenant.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais on a essayé avec Jean-Michel, et puis c'était... Affaire de calendrier, affaire de ah, il n'est pas disponible, enfin bon.
Mais que facile de monter une programmation, on le sait bien.
Bah oui, oui.
Oui, on disait, on parlait un petit peu de look, etc. Mais c'est toute une histoire. Son musique, sans ça, il n'y a pas. Son costume, il n'y a pas. Son mode, il n'y a pas de festival.
Ben oui. Mais le look rock, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout un look rebelle, contre l'establishment, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, oui. On se positionne contre les codes, même si après, ben, l'establishment va récupérer ses codes dits rebelles. On l'a même vu dans la haute couture. Mais à l'origine, j'aime bien me rappeler que le rock, en tous les cas, version côté Europe, eh ben, c'était costume trois pièces, chemise et petite cravate fine, bien nouée, et cheveux bien coupés. Pensez aux Rolling Stones, pensez aux Beatles dans les années quoi, 60.
Ouais.
Et ici, en France, Johnny Hallyday, il était en costume hein, pour ses premiers concerts. Ça me fait marrer de me souvenir de ça, parce que dans le même temps, aux États-Unis, ça y est, il y avait Elvis, il y avait le rockabilly, on va dire, enfin les chemises hawaïennes ouvertes sur des torses velus comme on les aime, le pantalon bien moulant, et l'attitude, enfin bon...
Et le cuir aussi.
Et donc, d'où il a fallu attendre quoi, les années 70 pour que bah, on se défrise un peu, plus qu'un peu d'ailleurs, et qu'on adopte un autre look. Alors là, c'était l'excentricité, on a vu les pattes d'eph, on a vu les chemises à jabot carrément, on a vu des fourrures, des plumes, des bijoux, des foulards.
Il y avait même un mouvement.
En énumérant tout ça, c'est l'image de Janis Joplin qui me vient tout de suite en tête, celle de Jimi Hendrix bien évidemment.
Ce qu'on a appelé le glam rock un peu plus tard aussi, c'était
oui,
complètement ça.
Ben, voilà, ouais. Et qui jouait aussi le glam rock sur le féminin masculin, je pense à des gens comme... Bien sûr, Bowie, Lou Reed, Patti Smith, ça a été la suite, on va dire, des années 70, où il y avait toute cette excentricité, c'est à qui on rajouterait le plus de penser, par exemple, à l'image que vous avez de Janis Joplin, je veux dire, regardez ses bras, ils étaient couverts de bracelets, pensez à quelqu'un comme Jimi Hendrix, donc on a rajouté comme ça, et on n'hésitait pas à ressortir des codes classiques, type chemise à jabot, chapeau, fourrure, etc., mais pour mieux les détourner, et là, pour le coup, oui, c'était vraiment une affirmation par rapport à l'ambiance générale, on va dire l'esthétique générale et convenue, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe d'ailleurs.
Même si en 1983, si tu me permets, Marie, c'était plutôt du noir et blanc, parce que c'était plutôt l'inverse, c'était la réaction, c'était presque les enfants des modes, hein, parce qu'on parlait du look propre, c'était aussi les modes en Angleterre, le look cravate, etc. Les groupes comme, je sais pas, les Small Faces, enfin plus tard, mais.
Mais là, t'es déjà passé aux années 80.
Mais dans les années 80, je revenais
à ça. J'étais aux années 60.
Ouais, c'est ça, voilà. Parce que les Cure, etc., bah, c'était plutôt dans le noir et blanc. C'était tout très austère, tout ça. Hein.
Oui, mais en parallèle, que les années 80 ont surtout été marquées par le mouvement punk, quand même.
Bah oui.
Parce que le mouvement punk, il faut rappeler quand même que ça part d'un mouvement social et populaire. Et c'est du do-it-yourself, c'est-à-dire on prend les matériaux qu'on a près de soi, du surplus militaire, les jeans, et puis quoi, une épingle de nourrice, parce que ça traîne dans le coin, enfin. On invente bien sûr des badges et des choses comme ça, mais et on récupère tous les symboles nationalistes. Je parle de la Grande-Bretagne avec le drapeau bien évidemment, mais aussi le portrait de la reine, et là pour mieux les détourner, voire même les casser, voire même avoir plein d'humour par rapport à ça. Et c'est quand même la mode la plus marquante, je trouve, début en tous les cas des années 80, c'est quand même le punk.
Ouais.
Qui a été après récupéré par Vivienne Westwood, par d'autres grands couturiers, parce que les grands couturiers, s'ils inventent bien évidemment, mais je pense à Edith Slimane beaucoup plus tard, qui a travaillé pour Dior, pour Saint Laurent, pour Céline, pour toutes ces grandes marques-là, il a récupéré le look rock pour le mettre à la portée de ces messieurs-dames qui ont accès à l'eau à haute couture. Et c'est après, c'est une fois que c'est passé par la case haute couture, que c'est après que le prêt-à-porter l'a mis à la disposition, en tous les cas, des bourses de tout un chacun, quoi.
Mais tout ça, c'est finalement, moi je dirais que depuis tout ça, c'est que du recyclage en gros, parce que les années 90, c'était le retour finalement des pattes d'Ève, d'un peu tout ce que disait, des grandes chemises.
C'était le grunge aussi.
Moi, le grunge, oui.
Bah, les chemises de bûcheron. Les...
Mais qu'avait inventé Neil Young finalement.
Oui, voilà, ils ont récupéré
ça. D'ailleurs, ouais. Neil Young, Kurt Cobain est un grand fan, hein, bien sûr. Mais oui, effectivement, ce look sans look, finalement.
Voilà, ça c'est Nirvana, Sonic Youth, qui a été récupéré par le designer Marc Jacobs, voilà. Qui a complètement récupéré le grunge, et pareil, qui a fait ses propres créations pour la haute couture.
Bah, mais voilà. Finalement, comme la musique, tout ça est toujours une histoire de renaissance et de recyclage et de réinvention, hein, après tout.
Ah oui, mais, bien évidemment, mais comme la musique, ça accompagne. Quoi.
Tout ça va ensemble.
Ouais. Et après, plus tard, dans les années, on va dire début 2000, bah, on a eu la mode hipster. Alors là, c'était revenir à le commun élémentaire. Monsieur tout le monde ou madame tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'habillait comme tout le monde. Et justement, pour faire croire qu'on n'avait pas réfléchi à sa tenue, peut-être pour se mettre plus à la portée de son public et moins être dans la starification, je ne sais pas, je ne vais pas parler à leur place.
Il y a même une espèce de mode de retour des déchiens dans les années 90, je m'en rappelle très bien, tu te rappelles des déchiens évidemment, donc il y avait, alors c'était, ça faisait partie du look de foutre des vieux survêtements, de mettre des vieux survêtements, des chemises démodées, etc. Et il y a eu
Je pensais à plus élégant, je pensais aux Libertines, aux Strokes, à François Ferdinand, ils étaient chics quand même.
Ouais, bah,
ils étaient chics, j'ai envie de dire comme tout le monde, à la portée de tout le monde.
Strouchic, on va dire.
La mode hipster un peu quoi.
Voilà, c'est ça.
Ah bon, avec certaines coupes de cheveux, machin, enfin pour la mode hipster, mais bon.
Et
aujourd'hui, maintenant on casse tout. Alors maintenant, on casse tout. Maintenant, on va dire quoi, c'est le jogging. Mais par-dessus le jogging, on peut très bien se mettre à un perfecto.
Bien sûr.
C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, c'est une accumulation de tout ça qu'on superpose, qu'on n'hésite pas. On voit des gamins maintenant qui sont en tenue de survêt, et puis par-dessus, on va mettre une immense doudoune qui traîne par terre. Donc on essaye, on voit qu'on est dans les essais, dans les tentatives.
Parce qu'il y a une mode dominante, en vrai.
Pas à ma connaissance pour l'instant, je ne la vois pas.
Parce que même dans le monde de la musique.
Oui, exactement, oui. Mais on est beaucoup plus maintenant, on en avait parlé lors de la précédente émission, dans la notion d'œuvre. C'est-à-dire qu'on crée vraiment un costume à part entière. Je pense à un groupe comme Chaka Ponk, c'est pas que je l'apprécie particulièrement, mais je veux dire, les costumes de Chaka Ponk, ce sont des créations.
Oui, c'est vrai.
Propre à ce groupe-là. Et je crois que c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant. C'est-à-dire que c'est véritablement des créations qui, un jour, viendront peut-être en prêt-à-porter, pourquoi pas.
Mais pour finir, quand même...
Ça passe par le parcours haute couture et après prêt-à-porter.
Pour finir, quand même, Marie, est-ce qui relie quand même, est-ce qui reste toujours assez vrai, je pense, peut-être varier tout ce que tu veux, mais Lady Gaga ou des gens comme ça, ça reste politique, finalement. Et la manière dont on se fringue, comme la musique, il y a quand même quelque chose qui reste profondément politique, profondément revendicatif, et finalement, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup aussi dans cette expression-là qu'on retrouve les idées de la jeunesse, entre autres. Quoi.
Ça a fait peur à beaucoup, j'en fais partie, quand on a vu que les Marc Jacobs, les Edith Slimani, pourquoi pas Vivienne Westwood, récupéraient comme ça tous les codes. On se dit, mince, quoi, enfin, là, mais vous inquiétez pas, les musiciens, le monde de la musique, vous, qui écoutez la musique et tout, il y a toujours une réinvention, il y a toujours des nouveaux courants, donc à voir ce qui va se passer dans ce 21e siècle, mais c'est évident. Déjà, là, on voit les prémices j'ai essayé vaguement de vous décrire un peu ce qu'on voit auprès des jeunes, mais là, la semaine dernière, il y avait
Fashion Week.
La Fashion Week, je fais ma curieuse, regarder un peu. Franchement, je vous invite à aller regarder ce qui se passe quoi, à cet endroit-là, et qu'on arrête avec le discours c'est métable, c'est pas métable. On n'est pas du tout dans cette approche du métable ou du pas métable, c'est juste, pour moi, des œuvres. Véritablement.
Ouais.
Et ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Mais comme quand on va à une exposition d'art plastique.
Hein. Bien sûr. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais tout le monde est capable de faire ça. Il y a une exposition sur Yves Klein en ce moment. Apparemment, il y a une rétrospective Yves Klein, et tout le monde. Mais qui n'est pas capable de faire ça, de peindre un tableau en bleu?
Ouais, retrouver son bleu à Klein. c'est un bleu très particulier qu'il a inventé. Et je ne sais pas si la recette a été transmise, mais le bleu de Klein est reconnaissable. parmi tous les bleus, bien évidemment.
Et il n'y en a qu'un. C'est pour ça que c'est dans les musées, par exemple. Et qu'il faut aller voir ça, parce que vous n'allez pas vous ennuyer en voyant des monochromes. On élargit un petit peu, mais je pense que c'est...
Bah oui, on est toujours dans l'art. Tu sais, pour revenir à Philippe Guillotel, donc, le costumier designer de Philippe de Coufflet, il a commencé par les arts plastiques, il vient des arts plastiques. Bah la plupart des grands designers, enfin des grands stylistes, sont passés par les arts plastiques. C'est d'abord l'art. C'est d'abord l'envie de créer à partir d'une expression. Une fois encore, ça peut être la peinture, la sculpture, le numérique. Enfin, eux ont choisi la mode. Et donc la mode est au même titre que toutes ces expressions art plastique, quoi.